Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une campagne de l'UNICEF contre l'enfermement des enfants en France. L'an dernier, 200 mineurs ont été placés dans des centres de rétention administrative avec leurs parents. Reportage à suivre dans un centre près de l'aéroport de Roissy. Une campagne européenne qui monte en régime. Les meetings se multiplient avec des têtes d'affiches de plus en plus médiatiques et des discours qui se durcissent. Exemple hier à Marseille, au meeting des Républicains. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron qui fait plusieurs propositions pour défendre la biodiversité et qui se prononce contre la montagne d'or en Guyane. Les deux journalistes de Reuters emprisonnés en Birmanie qui ont été graciés ce matin. On parlera aussi dans ce journal de la famille de Tiphaine Véron qui repart au Japon sur les traces de cette jeune Française disparue il y a 9 mois, du projet de réforme de la Ligue des Champions très controversé et de la première rupture du jeûne du Ramadan hier soir. Reportage à Barbès en fin de journal.
Invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50. Jean-Christophe Lagarde donc. Il est tête de liste UDI aux élections européennes.
France Inter.
Et c'est un slogan accusateur, Sébastien, que lance ce matin l'UNICEF dans une pétition.
La France enferme des enfants, vous avez les clés pour les libérer. L'Agence des Nations Unies chargée de défendre la condition des enfants dans le monde a donc choisi de s'attaquer aux centres de rétention administratif, là où l'on retient des étrangers sans papier en attente d'expulsion. En 2018, en métropole, ce sont 208 mineurs exactement qui ont été placés avec leurs parents, plus de 1200 à Mayotte. Pour l'UNICEF, soutenu par une vingtaine d'associations, l'enfermement peut avoir des conséquences graves sur les enfants, notamment sur leur santé. Notre reporter Béatrice Duguay a pu se rendre dans le centre de rétention du Ménil-Amelot en Seine-et-Marne.
Ce ne sont pas les quelques jeux pour enfants, un toboggan, une petite balançoire, ni les couleurs des bâtiments, turquoise, rose fuchsia, qui suffisent à égayer ce quartier des familles.
On ne nettoie pas bien.
Héritier et congolais.
Les toilettes aussi, c'est un peu difficile.
Une eau, ça gratte, ça démange tout le temps.
Mavinga, angolaise.
Not good at all.
C'est une chambre pour enfants, ça ?
Non ? C'est une chambre
familiale.
Après, pour les enfants.
Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine, découvre les lieux sommaires. Proche d'un quartier d'hommes.
Moi j'ai deux enfants, je n'imagine pas mes enfants être dans la cour, même s'il y a un toboggan et il y a des barbelés, il y a des grillages, c'est des cellules fermées le soir. Les appels pour venir en rendez-vous, il n'y a pas de liberté ici, c'est une prison, ils sont incarcérés.
Il y a quelques jours pourtant, une famille avec deux petits-enfants était retenue là.
Un an et 3 ans.
Ils sont restés combien de temps ?
10 jours. Des Algériens.
Famille finalement libérée sur décision du tribunal administratif, mais ces jours sont désastreux pour les enfants, explique Mathilde Godoy, accompagnatrice juridique en rétention pour la CIMADE.
Il y a des enfants qui refont pipi au lit, qui arrêtent de manger. Une petite qui avait 1 ou 2 ans, qui avait perdu 2 kilos. Enfin, pour des petits gabarits, c'est juste énorme. Quoi. Donc les enfants qui dorment plus et qui perdent aussi confiance dans leurs parents.
Faute d'être protégés, souffrance injuste pour l'UNICEF qui martèle « On n'enferme pas un enfant, point ».
Le reportage au Ménil-Amelot de Béatrice Duguay. La pétition de l'UNICEF vise tout particulièrement 2 préfectures, celle de Moselle et celle de Seine-et-Marne. 3/4 des mesures de rétention à elles seules.
Il est 7h34 à 19 jours des européennes. Les partis politiques s'activent, Sébastien, pour dynamiser leur campagne.
Plusieurs meetings hier soir dans le camp présidentiel. D'abord, Édouard Philippe et plusieurs ministres ont débarqué à Caen en soutien à Nathalie Loiseau. Quand Daniel Cohn-Bendit, lui, faisait le show à Bobino à Paris, aux côtés de Pascal enfin le deuxième de la liste d'En Marche. Dans l'opposition, c'est à Marseille que la droite des Républicains s'était donné rendez-vous, chacun dans son rôle. François-Xavier Bellamy dans le rôle du rassembleur et Laurent Wauquiez sur un ton beaucoup plus martial. Élodie Forêt a assisté au meeting.
C'est une arrivée digne d'une rockstar.
Et enfin, notre tête de liste, François-Xavier Bellamy.
François-Xavier Bellamy, embrassé, acclamé et de plus en plus à l'aise, voire blagueur, s'adressant au président de région, Renaud Muselier.
Tu avais dit, ça peut pas marcher, parce que je suis Marseillais et il est Versaillais. Et alors, il faut que je te dise, Renaud, que peut-être depuis le sud, ça paraît être tout proche, mais rassure-toi, les Versaillais ne sont pas des Parisiens.
Et l'objectif est bien là, une nouvelle fois, afficher avec humour l'unité d'une droite réconciliée autour de Bellamy et mobiliser les électeurs, tous les électeurs, des centristes aux plus conservateurs, avec sur l'identité européenne notamment un Laurent Wauquiez offensif.
Retrouvons ce qui est la règle de l'intégration, celle qui nous a
toujours permis d'avancer ensemble, c'est à celui qui arrive dans notre pays de s'adapter, et ça n'est pas à notre pays de s'adapter à celui qui vient dans notre pays.
Et un François-Xavier Bellamy séducteur.
Refonder l'Europe pour rétablir la France, voilà le défi qui dépend de vous.
À Marseille, en tout cas, ça marche.
Je suis regonflée à bloc.
Un public réceptif.
Ce soir, je suis très fière d'être républicaine, madame. Très émue et très fière.
Et un parti qui veut croire en sa renaissance.
Redonner un souffle à notre avenir. Vive l'Europe et vive la France!
Élodie Forêt, donc, en meeting à Marseille avec les Républicains. À noter dans les échos de campagne cet aveu de Florian Philippot qui a confirmé hier avoir proposé une liste commune avec le parti du Frexit de François Asselineau, moyennant 300 000 euros. Ni l'un ni l'autre n'atteignent les 5% nécessaires pour être élus. La préfecture de police de Paris prépare, elle, les cérémonies du 8 mai qui auront lieu demain, sans surprise. Les manifestations seront interdites autour de la place de l'Étoile. Les industriels français prêtent à investir malgré la morosité ambiante qui plane sur l'économie mondiale. Selon l'INSEE, les chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière envisagent d'augmenter de 11% leurs investissements par rapport à 2018. Depuis 9 mois, ils n'ont aucun signe de vie de leur sœur. La famille de Tiphaine Véron s'apprête à repartir ce matin pour le Japon, à 150 km de Tokyo, à Nikko exactement, là où cette jeune Française de 36 ans a disparu le 29 juillet dernier, une région montagneuse dans laquelle ils seront accompagnés pour la première fois de secouristes spécialisés. Les précisions de Rémi Brancato.
En 9 mois, les proches de Tiphaine Véron se sont déjà rendus à 4 reprises au Japon. Sa sœur Sybille a effectué 2 voyages, mais aujourd'hui, avec son frère, elle sera accompagnée de 5 secouristes d'une société de Haute-Savoie.
Ils vont nous aider à fouiller la rivière sur quelques kilomètres dans des bassins. Ils vont plonger, ils vont mettre les mains dans les eaux croupies, fouiller avec des sondes à la recherche d'indices. Ça peut être un objet, ça peut être un morceau de corps, ça peut être n'importe quoi. Mais le but, c'est de trouver quelque chose.
La rivière a été survolée par des drones, des hélicoptères, mais jamais fouillée. La police japonaise n'a aucune piste et pour Sybille, le temps presse.
Après, ça va être trop tard parce qu'en juin, c'est le début de la saison des typhons au Japon. Enfin, on peut pas vivre avec l'idée qu'il y avait quelque chose dans cette rivière. On peut pas avoir de regrets en fait.
Alors la famille de Tiphaine Véron a lancé un appel aux dons, plus de 16 000 euros récoltés, bien loin des 20 à 25 000 nécessaires.
Ça coûte cher, les billets d'avion, frais d'interprète, les secouristes, c'est des professionnels donc il faut pouvoir les payer. De nos différents voyages, à chaque fois on est rentré sans rien. C'est le pire de rentrer sans rien, sans Tiphaine, enfin c'est horrible. Je me prépare à l'idée que ça soit de nouveau le cas et en même temps j'espère qu'on avance.
Et elle espère aussi rencontrer à nouveau la police japonaise pour suggérer des recherches lors d'un voyage pour lequel chaque minute compte. Le retour est dans 10 jours.
La difficile quête d'un logement lorsque l'on porte un nom à consonance étrangère, SOS Racisme, révèle ce matin les résultats d'un testing auprès de propriétaires individuels sur les sites du Bon Coin et de particulier à particulier. Un patronyme subsaharien a ainsi 38% de chances en moins de recevoir une réponse. On en reparle en ouverture du journal de 8h. C'est déjà à lire sur franceinter.fr.
Et c'est soirée foot pour les amateurs ce soir. Demi-finale, retour de la Ligue des Champions.
Avec Liverpool qui reçoit Barcelone, le Barça de Messi vainqueur 3-0 à l'aller et qui donc se voit déjà en finale de la compétition. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, la Ligue des Champions est secouée ces dernières semaines par un projet de réforme qui inquiète beaucoup les petits clubs de foot. Projet qui sera débattu aujourd'hui à Madrid. Les plus grands clubs, en effet, voudraient créer un système où les premières places leur seraient en quelque sorte automatiquement attribuées. Vincent Pellegrini.
La Juventus Turin et le Bayern Munich sont à l'origine de ce projet controversé. Ils ont reçu l'appui notamment du Real Madrid, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Objectif, multiplier par 2 le nombre de matchs lors des phases de poule afin d'augmenter les droits télé, mais aussi de créer une ligue fermée sur le modèle des sports américains qui garantirait aux grands clubs une participation automatique à la Ligue des Champions. Inacceptable pour Bernard Caillazo, président du syndicat Première Ligue qui regroupe la majorité des clubs de Ligue 1.
Ce qui est très grave, c'est que celui qui gagne en France le championnat ou ceux qui sont parmi les premiers ne jouent pas les compétitions européennes, c'est d'autres qui les jouent comme une sorte de rente automatique Bon, c'est un système de riches qui profite aux plus riches. J'avoue que c'est quelque chose qu'on n'acceptera pas au niveau des clubs, mais pas seulement français. Hein. Tous les clubs, 80% des clubs dans les différents pays, n'accepteront pas cette formule.
Les clubs de Ligue 1 sont d'autant plus inquiets que si le PSG disposait d'une place garantie en Ligue des Champions, avec plus de matchs à jouer dans cette compétition, il pourrait bien laisser ses joueurs vedettes au repos pour les matchs du championnat de France. Les clubs français ne sont pas les seuls à s'opposer vigoureusement à ce projet. La puissante Première Ligue anglaise et le président de la Liga espagnole partage cette position.
Allez, on termine avec des dates et des crêpes farcies. Première rupture du jeûne hier soir pour des millions de musulmans qui font le ramadan. Direction le quartier de Barbès à Paris où ce pilier de l'islam en 30 ans a bien changé. Le reportage de Sébastien Sabiron.
Sous le métro aérien, des étals improvisés débordent de pain, de dattes, de pâtisserie orientale. Smaïn, 65 ans, joue des coudes pour faire ses courses. Son 45e ramadan dans le quartier.
Ah bon, il n'y avait pas ça. On était peu, les gens ils étaient dispersés, il y avait quelques boucheries halal. On partait en beau lieu pour acheter des trucs pour le ramadan et tout. Et maintenant, on trouve de tout.
Des denrées alimentaires et de la chaleur humaine que Mustapha vient chercher tous les soirs à Barbès.
C'est la capitale du ramadan. Je peux vous dire, si je pars en Algérie, à mon pays, je ne trouve pas les choses qu'on peut trouver là.
Au point que le ramadan soit devenu un peu trop commercial aux yeux de Mustapha.
Les dattes avant le ramadan, d'un kilo, ils étaient à 6 euros. Là, ils ont augmenté à 8 euros. Ah ouais, ils savent bien que les gens sont obligés d'acheter. Quoi.
Acheter, puis partager, l'esprit même du ramadan. Près de la Goutte d'Or, l'association La Table Ouverte distribue la chorba, la soupe traditionnelle.
Celui qui a faim, il peut manger.
Chérif, arrivé d'Algérie il y a 20 ans.
Je pense que le ramadan est mieux accepté ces dernières années qu'avant. Par d'autres religions, par d'autres cultures qui viennent goûter, qui viennent participer avec nous. Même par les politiciens qui parlent avec des gens, qui vont à la mosquée essayer de voir, comprendre le ramadan. C'est une ouverture, voilà.
Sentiment partagé par les anciens du quartier qui, au-delà du jeûne, au-delà de la spiritualité, profitent avant tout d'être ensemble.
Ce ramadan, ça fait du bien aux gens.
Voilà, et pour finir, cette image qui fait les choux gras des réseaux sociaux, un gobelet de café posé sur une table de banquet, un gobelet Starbucks en plein milieu d'un épisode de la saga Game of Thrones. C'était hier soir, devant des millions de téléspectateurs, une publicité gratuite mondiale à peu de frais.
Merci Sébastien Legénie.